jusqu'à 9h30. Jusqu'à 9h30. Vous écoutez Que la Mauricie se lève.
Que la Mauricie se lève.
Catherine le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Salut, M. Blanchet.
Bien le bonjour. Hey, il ne peut pas en venir plus que 10, hein?
Oui, c'est vrai que j'en ai mis un peu. T'as bien raison.
Ça se bouscule pas tant que ça au portillon, mais après un long moment de triste immaturité, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont pris les derniers mois discrètement dans le coin, ouais, un par un, puis ensemble, puis tranquillement, pas vite, et qu'ils ont posé un geste de maturité sans lequel ce parti-là, qui est sorti de la tête de beaucoup de Québécois, n'avait aucune chance de survie. Et là, ben, si on analyse les chiffres, je le faisais en fin de semaine parce que j'analysais les chiffres francophones du sondage, ouais, Main Street. Je m'étais demandé la permission de prendre un tableau parce qu'il faut être abonné.
Ouais.
Je l'ai rendu public. Et on arrive à des choses intéressantes, notamment que si on additionne, bien sûr, c'est pas un exercice mathématique absolu, là, mm-hmm, mais si on additionne les votes du PQ puis les votes de QS, qui sont tous les deux des partis qui se disent souverainistes avec un enthousiasme à géométrie variable et progressistes, se disent-ils aussi, mais si on additionne ça chez les francophones, on est au-dessus de 40 % loin devant la CAQ. Il y a eu un rendez-vous manqué qui, s'il n'avait pas été manqué, aurait peut-être fait en sorte que les souverainistes, qui sont très bons pour s'ostiner entre eux, aurait été la principale force politique de l'élection actuelle. Or, au Bloc,
ouais,
ils sont tout seuls à être souverainistes sur,
ben
le,
oui,
terrain.
On s'entend.
Ils ont un potentiel de 30 quelques pourcents de vote. Ils ne vont pas faire 30 % de vote. En tout cas, on n'est pas rendu là. Mm-hmm. Mais pour l'instant, quand on les voit à 11, 12, 13, 14, on se dit qu'ils sont loin d'avoir fait le plein. Et ça passait par un certain nombre de démarches. C'en est une. Souhaitons-leur la maturité de continuer à travailler ensemble de façon efficace.
Mais donc, tantôt, quand tu parlais de gestes d'immaturité, tu considérais que le fait de quitter, dire on claque la porte,
c'était
on
plus...
s'en va?
Non.
Non. C'est...
Mon impression, puis là, je ne veux pas revenir sur l'histoire de,
non,
sur
non,
la,
non,
la, l'histoire de la vie de Martine Ouellet.
Non, non.
Mon impression que ce geste-là, qui en était un de radicalisation en se disant que si on crie plus fort, le monde va nous entendre plus plutôt que de s'éloigner, c'est pas ça qui s'est produit.
Mm-hmm.
Et ça a créé un ensemble de divisions internes. Mais le jour où les gens qui ont à peu près créé les deux bouts sont partis, on comprenait dans une certaine mesure leur vision des choses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les héritiers de la vision un peu plus duceppe du Bloc québécois où les intérêts du Québec servent la souveraineté sert les intérêts du Québec. C'est supposé être une seule et même chose. Alors, lorsque tu veux sortir la notion d'intérêt du Québec d'un travail parlementaire, ce qui n'a aucun maudit bon sens. Mm-hmm. Tu sais, dans le dossier de la LENA où on est encore, ouais, dedans, quelqu'un qui ne parlerait que pour le Québec sans prendre en compte le fait que des intérêts québécois comme la gestion de l'offre pourraient être mis de côté au bénéfice de l'industrie automobile de l'Ontario, ça compterait, ouais, ça ferait une différence. Et cette voie-là, depuis les années 90, on l'avait au Québec et là, dans une certaine mesure, on l'avait échappé.
OK, alors on verra... Tout à l'heure, c'était à 10h, là, la conférence de presse officielle. Je te pose la question directement. Là, François Legault, en fin de semaine, s'est embrouillé là, concernant le système d'immigration. Pour toi, comme c'est quelqu'un qui, évidemment, qui vise à être premier ministre, acceptable ou inacceptable?
Il y a certainement des détails dans un ensemble de dossiers qu'un chef de parti peut ne pas connaître sur le bout des doigts.
Ouais.
C'est normal. Alors, si tu prends quelqu'un à l'impromptu sur... la tarification de l'eau de source prélevée en Abitibi, ça, c'est normal. Il peut se dire, écoute, laisse-moi vérifier l'affaire. Maintenant, lorsque lui-même fait du thème de l'immigration le cœur de son activité politique ou un des thèmes forts de son activité politique depuis plusieurs années, avec des propositions audacieuses et controversées d'expulser du monde carrément s'il ne passe pas un test au bout de 3 ans avec un statut légal qui, à l'heure actuelle, n'existe pas, il faut au moins que tu sois équipé parce que tu le sais que tu vas avoir des questions là-dessus. Donc, tu te prépares. Tu fais tes devoirs et tes leçons à la maison avant de t'en aller au micro. Et dans le cas présent, il l'a échappé, à mon avis, et ça fait mal. Là, on voit les chiffres commencent à bouger là, dans le sondage quotidien.
Ouais, hein?
Il l'a échappé en diluant sa propre position.
Ouais.
Lui, il arrive là et il dit, écoutez, au bout de 3 ans, vous ne passez pas un test de français et vous ne connaissez pas les valeurs québécoises, on vous retourne chez vous. Après ça, il dit, bien, le fédéral vous retourne chez vous. Puis après ça, bien, le fédéral vous retourne peut-être chez vous. Et là, il ne veut pas perdre sa base, qu'il veut voir du monde avec des menottes embarquées sur un avion à coup de pied au derrière. Fait que là, il commence à ne pas reculer, mais à dire que dans le fond, tout le monde va le passer.
Moi, c'est ça, ça va être facile à passer.
Fafa bébé. C'est vraiment, ouais, là, bien relax. Ouais. Là, tu dis, OK, ça ne veut plus rien dire, ton affaire. Et après ça, quand il se fait poser des questions sur ça prend combien de temps à obtenir une citoyenneté au Canada, il parle de quelques mois. Puis il y a des erreurs de ce type-là qui... mine la crédibilité et la confiance que ça suscite. Je ne dis pas qu'il est en dehors de la patinoire et que c'est fini pour la CAQ, mais les derniers jours ont été durs, le débat a été relativement dur, et je regardais les chiffres chez les francophones en particulier. Et là, il faut voir, ça ne se fait pas en une journée, mais en une journée dans l'échantillonnage de cette journée-là, le PQ avait réduit l'écart avec la CAQ de 4,7% chez les francophones, ce qui est énorme.
Et ça s'explique comment, selon toi? Par la performance de Jean-François Lisée ou par la contre-performance de Legault?
J'ai entendu d'excellents chroniqueurs dire, regardez là, le sondage quotidien, il a bougé de tant de points entre telle partie puis telle partie, puis dire, voici c'est quoi l'explication. On peut pas faire ça.
Non, OK.
On peut pas faire ça parce que les citoyens du Québec... Moi, j'ai été appelé d'ailleurs pour la première fois hier par ce sondage-là, Main Street. Les autres, ils savent pas qui appelle, c'est une machine. Fait que là, là, je voulais savoir comment ça marchait.
C'est drôle quand
fait,
même.
J'ai fait le processus.
OK.
Et ces gens-là répondent en fonction d'un ensemble de critères dans leur vie, leurs intérêts, leurs inquiétudes, leurs préoccupations. Tu peux pas dire c'est juste ça. Parce que la première mesure qui a été faite par ce même sondage-là, après le débat, aucun mouvement. Il n'y avait rien qui avait bougé. Il n'y avait rien qui avait changé. Et l'autre, le surlendemain, là, tout d'un coup, boum. Est-ce que c'était les erreurs en immigration? Est-ce que c'était le débat où il s'est fait sérieusement bousculer? Est-ce que c'est une combinaison d'un peu tout ça? Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en considération, mais on sent intuitivement que les 10 derniers jours ont été moins bien structurés par la CAQ, que le Parti libéral réussit pas à rembarquer fort pour les tasser de là et que c'est un peu le Parti québécois, pas de façon massive, là,
non,
mais un peu le Parti québécois et un peu le Québec solidaire qui gagne, d'où les chiffres dont je te parlais plus tôt. Et ça change un peu le portrait électoral. Il y a entre le quatrième parti et le premier parti, tout ce monde-là rentre à l'intérieur de 14 ou 17 %. Là. Je pense que c'est 14 %. C'est très près les uns des autres.
Beaucoup,
c'est très, très près. Tu sais, quand QS est à 16 % puis que la CAQ est à 32, c'est 16 % d'écart.
Ouais. Ah oui.
Mais c'est tout près.
Autre question pour toi. Je regarde les choses aller, puis peut-être que tu n'as pas la même perception que moi. On cherche toujours, ce sera quoi le gros sujet de la campagne? Mm-hmm. Là, on parlait d'immigration, puis on se dit, ce sera quoi le thème? En bout de ligne, François, ça revient-tu toujours à la même chose? C'est-à-dire, celui qui s'enfarge le moins gagne ou je réduis ça trop vite?
On a tellement multiplié les sujets en prétendant à chaque fois que c'était le sujet fondamental. À un moment donné, le premier ministre a même dit le sujet le plus important, ça va être l'intégration économique en région des immigrants ou la pénurie de main-d'œuvre. C'était pas évident, là. Dans la tête du vrai monde, c'était pas évident. Sauf qu'avec ce nombre de sujets-là, on commence à, enfin, parce que ça a longtemps été anecdotique, des micro-annonces, on commence à sentir des visions différentes et le débat a servi à ça, à mieux connaître les personnalités. Et ultimement, moi, ce que je vois, quand je vais au garage, je confie mon auto à quelqu'un. S'il veut m'expliquer le détail de la mécanique de mon char, il m'a dit « Perds pas ton temps, je connais rien là-dedans. Je te fais confiance ou je ne te fais pas confiance.
Ouais. »
Et je sais que toi, tu travailles de même plutôt que comme ça. Mais les chefs de parti sont peut-être un peu traités comme ça par les gens. Je connais pas le détail de tous tes dossiers. Tu pourrais m'en passer plein de vite puis je m'en rendrais pas compte. Alors, je vais te faire confiance, sachant que toi, tu es un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Dans la tête du monde, c'est peut-être pas ces mots-là qui servent. Ils vont accorder leur confiance à quelqu'un et à une organisation et à un parti. Peut-être à reculons, mais ultimement, c'est peut-être ça qui va faire foi du résultat.
J'ai des auditeurs qui m'écrivent. OK, je le partage en temps réel avec toi. Gabriel nous écrit, il dit, est-ce qu'on s'entend que Legault est à l'Assemblée nationale depuis Mathusalem? Le gars est carrément pas ministrable et c'est le chef de parti. Il a monté dans les sondages sans dire un mot depuis mars 2018, montrant la face de la population que les sondages sont arrangés. Bon, Gabriel nous dit, le Québec ne va pas bien. Évidemment, il va fort.
À plusieurs égards. Québec va relativement bien.
Oui.
L'économie du Québec va relativement bien. Oui, bien sûr, il y a des enjeux d'intégration d'immigrants qui ne se comparent pas du tout à ce qui se vit, par exemple, en Europe. Mm-hmm. On promet des milliards à tout le monde pour tout le reste. Avec une fraction de cet argent-là, on serait capable d'assurer l'intégration en français en région d'un nombre significatif d'immigrants.
Oui.
Les entreprises les veulent. Et à cet égard-là, précisément, les libéraux ont raison. M. Legault n'est pas quelqu'un qui n'est pas ministrable. Il est clairement ministrable, mais il a une machine relativement jeune, relativement peu expérimentée. Puis c'est pas trois joueurs empruntés au PQ qui vont transformer la CAQ.
Sauf qu'en même temps,
machine de pouvoir.
Mais il est expérimenté, François, es-tu d'accord?
Oui,
il y a des candidats qui ne sont pas.
Il est seul.
Ben,
La personne la plus expérimentée après lui, c'est Marguerite Blais. Puis, sans être méchant, je trouve la même image, c'est pas toujours un joueur de premier trio.
Non.
Alors, il est seul et toute la pression finit par reposer sur les épaules de M. Legault parce que son équipe, aussi pleine de bonne volonté et sincère soit-elle, en échappe un certain nombre. Puis je ne parle pas des anecdotes de Simon Allaire et tout ça. Là. Vraiment, il y a une limite à ce que quelqu'un peut faire seul. Tandis que, exemple, M. Couillard ou M. Lisée peuvent envoyer d'autres joueurs en première ligne. C'est des gens qui risquent moins de faire des erreurs parce qu'ils ont de l'expérience. Ils savent aussi comment gérer un caucus. Ils savent comment préparer des candidats, même s'ils en échappent eux autres aussi. Ça, ça fait peut-être mal à la CAQ sur le long terme. Le reste, ben oui, on peut aimer ou ne pas aimer le bonhomme.
En terminant, tu nous as présenté dans d'autres des chiffres. Tu dis que le PQ se rapproche un petit peu de la CAQ, mais dans la région, de ce que je peux voir, la CAQ a encore une bonne avance.
Je pense pas que je pense que les endroits. Le PQ n'est pas dans une posture pour dire hey, regardez les nouveaux chiffres, je vais avoir 32 sièges.
Non, non, non.
Le PQ, d'ailleurs, le nouveau QC 125, les projections. Ouais. Mettre la CAQ à 60 sièges. Donc, la CAQ sortirait, au conditionnel, de la zone majoritaire pour aller vers un gouvernement minoritaire. Et la tendance est assez lourde depuis quand même pas mal de jours. Okay. Moi, dans Catalogne, je suivais ça de proche pareil. Ouais, ouais, ouais. Là, la tendance était quand même assez lourde. Mais le PQ, l'enjeu, c'est d'atteindre 20 sièges, 21 sièges, 22 sièges. Et si c'est le cas, c'est sûr qu'on n'a pas un gouvernement majoritaire.
Non, mais c'est ça. François, on se reparle demain matin?
Bien sûr!
Salut, maman. Après le retour au bercail de certains députés du Bloc québécois. Tu vois, j'ai nuancé
voilà,
mes propos.
Voilà.
Salut, François, à demain. 8h20.